بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 23 du mois Shawwal de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 11 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cours hebdomadaire dans lequel nous étudions ensemble cette risala extrêmement bénéfique et profitable d'un des plus grands imams de la sunna, l'imam Ahmad ibn Hanbal, intitulé Sharh usul al-sunna. Et nous prenons plusieurs fawaïd de Sharh d'un autre imam de notre époque, un imam de la sunna, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde. On a parlé dans notre cours précédent de l'Hawd, du bassin, et de sa description, et de la position de Al-Sunna al-Jama'a, par rapport à ce point qui représente un fondement de la croyance, et quelques sectes égarées au sujet de ce point de croyance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point fondamental. De toute manière, vous savez que tout ce que l'imam Ahmad a cité comme point de croyance dans cette risala représente des fondements de la sunna et de la croyance. Et si je vous demande qu'est-ce que cela signifie pour vous, que ce soit des fondements de la croyance.
S'il y a l'un des manquements, ça se répercute sur la foi directement.
Non. Et quelqu'un qui a... Est-ce que, Annie, pour faciliter, est-ce que la divergence est tolérée au sujet de ces points?
Non.
Non. Il n'y a aucune divergence qui est tolérée. Deuxièmement, celui qui a une position qui n'est pas conforme à la position de Al-Sunna wal-Jama'a par rapport à un de ces points, un seul, est-ce qu'il fait partie de Al-Sunna wal-Jama'a?
Non.
Non. Yani, le non-respect d'un seul point de tous ces points qui sont cités, et ça ne veut pas dire qu'il a cité tous les points fondamentaux de la croyance. Lakin, il a cité les plus importants dans lesquels il y a des sectes égarées qui ont eu des positions différentes de celles de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Lakin, c'est des points dans lesquels, yani, comme dans tous les points fondamentaux de la croyance, il n'y a pas de divergence entre les savants de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Ni had al-madhahib, comme on les appelle, madhahib fiqhiyya. Yani, les écoles de jurisprudence, c'est bien des écoles de jurisprudence, et non pas de croyance, car la croyance est la même pour tous. Dans la croyance, il y a Ahl-Sunna wal-Jama'a et il y a les innovateurs, de l'autre côté. Lakin, dans les questions de la jurisprudence, l'affaire est plus large. Il peut y avoir des divergences selon la compréhension des textes, selon la compréhension des hadiths. Est-ce que le savant n'a pas pris connaissance d'un hadith, donc il a eu un effort personnel sur une question de jurisprudence? Mais tout ça ne se dit pas au sujet de la croyance. Au sujet des fondements de la croyance, l'imam Malik, il croit la même chose que l'imam Ahmad, que l'imam Shafi'i, et globalement que l'imam Abu Hanifa, et tous les autres imams de la sunna. Ils sont sur la même croyance. Tu ne trouveras pas un savant de Al-Sunna qui ne croit pas au bassin du prophète, A.S.A.W., ou qui ne croit pas à la balance, ou qui dit que la balance... C'est un sens, et non pas une créature réelle, une vraie balance. Tu ne trouveras aucun savant parmi les savants de Al-Sunna qui tient à ce genre de choses. Taïb. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler de Azab al-Qabr, de l'Qabr d'une manière générale, de la tombe, et du monde tombal, et tout ce qui s'ensuit. Il a dit al-iman bi adhab al-qabr. La foi Donc il a dit al-iman bi adhab al-qabr. L'obligation d'avoir la foi au supplice de la tombe et au monde tombal d'une manière générale avec ses délices et ses supplices. Il a dit wal-iman bi adhab al-qabr wa anna hadhihi al-ummah tuftanu fi quburiha wa tus'alu 'an al-iman wal-islam. ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله جل جلاله وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. Donc, l'obligation d'avoir la foi au supplice de la tombe, le châtiment de la tombe, et que cette communauté sera testée dans, ils seront testés dans leur tombe. Ils seront interrogés, les trois questions sur lesquelles a basé l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab sa risala intitulée « Thalathatul usuli wa adillatuha » les trois fondements. C'est sur ces trois questions de la tombe. La première question, il a dit, il sera interrogé, il ne les a pas cités dans l'ordre. Lakin, il a dit, il sera interrogé au sujet de la foi et de l'islam, c'est-à-dire au sujet de la religion. Il sera ensuite interrogé au sujet de son Seigneur et au sujet de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces trois questions pour cette communauté, à part ceux qui font exception de fitna al-qabr, comme les martyrs. Les martyrs ne seront pas interrogés dans la tombe. Les martyrs ne seront pas interrogés dans la tombe. Car le degré du martyr est un degré tellement élevé et en quelque sorte il a fait ses preuves avant d'arriver dans la tombe. Comme le Nabi a dit dans un hadith, yani de prendre des risques et de risquer sa vie yani, et de se mettre en danger pour que la parole d'Allah soit la plus élevée et pour la cause d'Allah, ça suffit pour lui comme épreuve. Donc il ne sera pas interrogé dans la tombe. Est-ce que les autres communautés seront également interrogées dans leur tombe ou ça c'est spécifique à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il y a une divergence et il n'y a pas des preuves qui permettent de trancher clairement dans cette question. Et il n'y a pas grand intérêt d'ailleurs à savoir est-ce qu'ils seront interrogés ou pas. Ce qui nous concerne c'est nous, dans cette communauté. Et c'est une certitude que nous serons interrogés dans la tombe à part ceux qui feront exception. Donc il sera interrogé au sujet, tout d'abord de son Seigneur, qui est ton Seigneur. Et ils disent que celui qui n'a pas de tawhid, il ne répondra pas à la première question déjà. Il sera interrogé au sujet de sa religion, notamment les cinq piliers de l'islam. Et il sera interrogé au sujet de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Allah qui permet les réponses dans cette grande épreuve, la dernière des épreuves du croyant. Et même cette épreuve, en réalité, ce n'est pas une épreuve dans la réalité. Car ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudra faire les efforts pour répondre à la question, aux questions. Le croyant, les réponses seront inspirées au croyant. À qui Allah subhanahu wa ta'ala accordera le raffermissement. Et la réponse à ces questions, c'est en quelque sorte le fruit de sa vie, sur quoi il a vécu. C'est pour ça, Al-Nabi alayhi salam nous a enseigné de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les quatre, et parmi les quatre, il y a Azab al-Qabr. Contre le châtiment de la tombe. Nasallallahu alayhi wa sallam atul afiyah. Et viendra au serviteur dans sa tombe. Bien évidemment, c'est la foi au monde tombale, ça fait partie de la foi en l'invisible, en l'inconnaissable. Nous ne savons pas comment ça va se passer. Nous savons que c'est réel. Et ça va se dérouler comme Allah a décrit, comme Allah nous a dit, comme son prophète nous a dit. Réellement. Là qu'il le commande, nous ne savons pas. Car si tu regardes dans la tombe, tu ne vois pas un changement. Et Annie, tu ne vois pas toutes ces choses qui sont décrites. C'est pour ça, ça fait partie du monde invisible. Et viendra à chaque serviteur dans sa tombe deux anges. L'un d'entre eux s'appelle Munkar et l'autre Nakir. Et ils seront immenses dans leur taille physique. La dent de l'un d'entre eux est semblable à la montagne de Uhud, comme vous savez, qui fait 7 km par 3. Et ils vont interroger le croyant avec une voix comme le tonnerre. Ils lui diront « Marrabbuk »« Ma dinuk » Ma kunta taqulu fi dhalika ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Le croyant sera raffermi et apaisé et répondra sereinement aux trois questions. Ils lui diront nous savions que tu allais répondre aux questions. Et l'hypocrite et le mécréant ils ne répondront pas. L'hypocrite dira j'entendais les gens dire quelque chose et je le disais comme eux. Je répétais ce que les gens disaient. Yani ça, c'est le suivi aveugle. Et aussi, ne pas avoir la foi ferme. Et il sera frappé avec un marteau, il descendra dans la terre 70 ans. Et ça aussi, ça fait partie du monde invisible. Yani, s'il est frappé de cette manière, dans cette dunya, il sera réduit en poussière. Lakin là, il ne sera pas réduit en poussière. Son corps descendra dans la terre 70 ans. Et ensuite, chacun aura comme compagnon dans sa tombe ses œuvres qu'il aura accomplies dans cette dunya. C'est ça le compagnon de chacun d'entre nous. C'est pour ça, tu choisis ton compagnon dans la tombe dès maintenant. Est-ce que ça sera cet homme avec cette belle apparence, cet homme dans l'apparence annonce la bonne nouvelle ou cet homme d'une grande laideur qui annonce les mauvaises nouvelles. C'est toi qui choisis ton compagnon dans la tombe, ce ne sont pas autre chose que tes actes et tes œuvres. Et dans la tombe, le croyant verra sa place en enfer si jamais il n'était pas croyant, afin de réaliser la ni'ma d'Allah sur lui, de l'avoir sauvé de ce châtiment terrible et affreux, et ensuite il verra sa place au paradis. Et c'est là où il demandera à Allah de permettre l'arrivée de la fin des temps et de la résurrection, et qu'il soit ressuscité. Et on lui dira que ce n'est pas encore le moment. Il restera dans sa tombe, il peut rester des milliards d'années, ça va lui paraître comme un petit laps de temps, comme s'il s'est endormi une petite heure. Contrairement aux mécréants et aux hypocrites dont le châtiment commencera déjà dans la tombe. Le croyant, les délices commenceront déjà dans la tombe. Et malgré tout ce qui lui sera accordé dans sa tombe, quand il verra sa place au paradis, il demandera à Allah de permettre l'arrivée, ni la résurrection, afin qu'il accède à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé au paradis. Et le kafir, le munafir, il dira, oh Allah, malgré son châtiment dans la tombe, il dira, oh Allah, ne permet jamais l'arrivée de la fin des temps et de la résurrection par la suite. Rabbi la tuqimissa. Il dira, Rabbi, la tuqimissa. Taïb. Cheikh Rabia. Donc, il viendra, lui, Munkar et Nakir, comme Allah le veut. Kaifa arad, comme Allah le voudra. Wal iman bihi wa tasdiq bihi. Donc, nous, notre devoir, c'est d'avoir la foi en ces choses qui ont été rapportées dans le Coran et dans la Sunna, et d'avoir l'approbation et l'acceptation. Dans son explication, Cheikh Rabi' dit « La foi au châtiment de la tombe, comme ça a été rapporté dans les hadiths, également dans les versets du Coran. » Allah subhanahu wa ta'ala dit « An-naru yu'raduna alayha ghuduwa wa ashiya, wa yawma taqoumu s-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est parmi les versets du Coran que Ahl-Sunnah utilise comme argument sur le monde tombal et son châtiment et ses délices. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens approximatif, c'est au feu qu'ils seront exposés matin et soir. Et le jour où viendra l'heure, il sera dit, conduisez Pharaon et sa suite vers le pire des supplices. Ça veut dire Pharaon ainsi que ses suiveurs seront châtiés à un châtiment avant l'arrivée de la fin des temps. Donc ce châtiment, c'est bien le châtiment de la tombe. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya. Seront exposés matin et soir au feu. Mais ce n'est pas le feu de l'enfer. Car par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, et le jour où viendra l'heure, il sera dit, conduisez Pharaon et ses suiveurs vers le pire des châtiments. Vers le châtiment du feu de l'enfer. Donc ça, c'est parmi les preuves sur le châtiment de la tombe. Cheikh a dit, Pharaon, ainsi que ses suiveurs de parmi son peuple, mécréants, ainsi que les autres mécréants, tous, ils seront châtiés dans leur tombe matin et soir. Et ça, c'est le châtiment dans le monde tombal. Et ensuite arrivera la fin des temps, arrivera l'heure de la fin des temps, où il sera dit aux anges de conduire Pharaon et ses suiveurs dans le feu de l'enfer. Ça, c'est dans le Coran. Amma dans Sunna, les hadiths authentiques au sujet de la tombe et de ses supplices et délices ont atteint le degré de tawatur. Et vous constatez que dans la plupart des fondements de la croyance, les hadiths atteignent le degré de tawatur. Ça veut dire que c'est rapporté d'un grand nombre d'hommes de science, d'un grand nombre d'hommes de science, d'un autre grand homme, un grand nombre d'hommes de science, jusqu'à arriver à la génération des compagnons. Aussi, ça sera rapporté de beaucoup de compagnons. Et ça indique bien que ce sont des points fondamentaux. Le Nabi alayhi salam, il est rapporté dans les deux authentiques. Un jour, il est passé par deux tombes. Il s'est arrêté, il a dit « Innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir, bala innahu kabir, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, wa amma l'akharu fakana la yastatiru min al-bawl. » Au fil riwaya, « Kana la yatanazzahu min al-bawl. » Donc le Nabi alayhi salam un jour est passé par deux tombes, il s'est arrêté, il leur a dit « Certes, ils sont tous les deux châtiés dans leur tombe. » Car le Nabi alayhi salam, il voyait le monde tombal. Et Cheikh l'Islam a rapporté beaucoup d'anecdotes d'animaux qui étaient attachés aux côtés de certaines tombes et qui avaient des diarrhées, qui avaient des problèmes qu'on n'a pas réussi à expliquer que par le fait que d'entendre le châtiment de la tombe. Lakin, Al-Nabi alayhi salam, il voyait, il entendait. C'est pour ça qu'il a dit dans d'autres hadiths, il a dit « Laoula alla tadafano » Je le cite avec le sens. « Laoula alla tadafano la sa'altu allaha an yutla'akum ala azab al-qabr. Wa qal law ta'lamuna ma a'lam labakaytum kathiran wa la dhahiktum qalila. » Donc Al-Nabi alayhi salam a dit si ce n'était la crainte que personne n'enterre personne, j'aurais demandé à Allah de vous faire voir ce que je vois du châtiment de la tombe. Il a dit dans un autre hadith, si vous saviez ce que je sais, vous aurez pleuré beaucoup et ri seulement peu, très peu. Et donc il leur a dit, ils sont tous les deux châtiés dans leur tombe. Et ils ne sont pas châtiés à cause d'une chose très grande. Et ensuite il a dit, si c'est une chose très grande. Ils ne sont pas châtiés au sujet d'une chose très grave. Après il a dit, si c'est une chose très grave. Comment le comprendre ? Ils ne sont pas châtiés au sujet d'une chose très grave aux yeux des gens. Mais en réalité, c'est une chose très grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, il faisait namima, la calomnie. Tu vas voir un frère et tu lui dis, tu sais un tel, il a dit de toi ça et ça et ça. Comme bien même c'est vrai ce que tu rapportes. Ça, c'est une namima. Si tu es un homme sincère, si tu es un homme de bon conseil, quand il commence à le dénigrer, tu lui dis « arrête-toi et crains Allah » et ne dis pas du mal d'un musulman. Tu l'arrêtes et tu défonces ton frère. Et si tu n'arrives pas à l'arrêter ou là il ne veut pas s'arrêter, tu n'écoutes pas ce qu'il dit, tu pars, tu le quittes. Amma, tu restes à écouter pendant des heures et des heures les défauts de ton frère, que ce soit vrai ou faux, que ce soit des vérités ou des mensonges, et après tu vas voir l'autre et tu lui dis, tu sais un tel, il a dit de toi ça et ça et ça. Ça c'est une namima. Et namima c'est comme le riba. Le riba c'est pas permis non plus de citer les défauts d'un musulman. Et namima, la différence, c'est que namima, tu vas rapporter à quelqu'un ce qu'une autre personne a dit de lui avec l'intention de créer la division entre eux. Et ça, c'est pour sortir quand ces choses-là sont faites avec l'intention de la réconciliation et de réparer le mal. Là, la règle de base, c'est que ces choses-là ne sont pas permises. Tu l'arrêtes et tu pars. Sauf si, dans des cas, il peut y avoir un danger. Mohim, là, on parle de la règle de base. Namima, c'est haram. Et le riba, c'est haram. Il y a 6 points de riba qui sont autorisés. Il y a également des cas de namima qui sont autorisés et même ils peuvent devenir obligatoires. Le riba comme le namima. Il y a les points qui font exception qui peuvent devenir obligatoires. Ce n'est pas seulement recommandé et autorisé. Comme mettre en garde contre quelqu'un qui peut corrompre la religion d'une personne. Si tu le vois le fréquenter, tu dois le faire. Là, qu'il après, toutes ces choses-là doivent être pratiquées avec une certaine science, avec une certaine sagesse. Il n'y a pas de mal à demander avant d'agir. Il n'y a pas de mal à charger une personne qui a plus de science et plus de sagesse de le faire au lieu de le faire toi et de perdre le contrôle de toi-même et de parler mal ou là d'insulter. Yani, chacun doit connaître ses limites et ses capacités et charger la meilleure personne. Car l'intention du muslim, quand il fait ces choses-là, dans le cas où c'est demandé de le faire, c'est le bien. Il veut le bien seulement. Il ne veut pas montrer qu'il est supérieur ou là. Il veut seulement le bien des gens. Dans le cadre de la mise en garde, dans le cadre de mettre en garde une personne, et ainsi de suite. Taïb, le premier, il faisait la calomnie, un namima, le colportage, en fait, là, ils disent aussi. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il faisait ? Et le deuxième, il ne se cachait pas, il ne se préservait pas des regards des gens quand il faisait ses besoins, quand il est ruiné, comme c'est cité ici, là, d'une manière générale, quand il faisait ses besoins. Il va faire ses besoins devant les gens, ou à un endroit où les gens peuvent le voir et voir sa aura. Alors que ce qui est demandé, c'est de se cacher, comme faisait le Nabi alayhi salam. Alhamdulillah, ces choses-là sont facilitées à notre époque, où Allah subhanahu wa ta'ala a permis la construction de ces toilettes qui se ferment. Lakin, il faut faire attention par rapport aux caméras, ou à ce qu'ils mettent dans ces endroits. Et dans une autre version, c'est rapporté avec un autre point qui est aussi quelque chose que les gens prennent à la légère, mais qui est grave. Le fait de ne pas le fait de ne pas faire attention à ne pas toucher ses vêtements et son corps par la souillure. Car la personne, si elle ne fait pas attention, elle risque de faire salat en ayant des impuretés sur elle, sur ses vêtements ou là, sur son corps. C'est pour ça que le croyant doit faire attention par rapport à ça, sans tomber dans l'exagération et sans ouvrir la porte de l'ouest-ouest pour Shaitan. Ce qui est demandé, il n'est pas comme certains disent, quand il fait ses besoins, il faut sauter 70 fois pour être sûr que les dernières gouttes sont sorties. Ça, c'est l'ouest-ouest de Shaitan, ça n'existe pas en islam. Pourtant, tu peux le trouver dans des livres. Ou là, ceux qui portent en permanence un petit sac avec du sable dans lequel ils vont placer leurs parties intimes afin que si jamais il y a quelque chose qui sort, ça va dans ce had le sac là qu'il place autour de... où il place ses parties intimes. Hachi, tout ça n'existe pas en islam. Ce qui est demandé, c'est de faire ses besoins tranquillement et de laisser une dizaine de secondes, le temps que tout sort, et ensuite d'utiliser l'eau, ou la pierre, ou le papier, et l'eau est meilleure. Si on utilise l'eau, une fois est suffisante s'il n'y a plus rien. Sinon, on peut faire plus d'une fois. Mais avec la pierre, il faut faire au minimum la pierre, ou le papier, ou la hachi, il faut faire au minimum 3 fois. On devient pur avec un minimum de 3 fois. Et s'il y a encore besoin, on peut faire un nombre impair. 3 fois, 5 fois, 7 fois. C'est une sunna de faire un nombre impair. Et donc, dans ce hadith, il est clair que ces deux hommes ont été châtiés dans leur tombe à cause de ces deux grands péchés. Ou là, ces 3 grands péchés. Si on prend l'autre riwaya. Et il a cité également hadith al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, dans lequel il cite l'interrogatoire de la tombe. Les anges lui diront Man rabbuk, man nabiyuk, wa ma dinuk. Il dira Mon Seigneur, c'est Allah. Ma religion, c'est l'islam. Et mon prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui diront Nam salihan, faqad alimna in kunta la mu'mina. Ils lui diront Dors tout en étant quelqu'un de vertueux et de pieux. Car nous savions que tu étais un vrai croyant. Et c'est là où il verra sa place en enfer si jamais il était mécréant. Et ensuite il saura ce que Allah lui a accordé au paradis. Et il dira Rabbi aqim as-sa'a. Fayuqalu lahu intadhir. Patiente. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le décide. Contrairement à l'hypocrite. Ou mécréant. Et ensuite, Cheikh a dit une faïda très précieuse. Il a dit « Wa nas'alullah salama ». Nous demandons à Allah de nous préserver. « Fa'innahu yukhafu ala kathiri minan nas ». On craint pour beaucoup de gens, pour beaucoup de ceux qui se disent muslimines, car ils ne connaissent pas le sens du message du prophète alayhi salam sallam comme il se doit. Ils ne savent pas que le prophète alayhi salam sallam est venu avec les preuves évidentes et avec la guidée. Et ils ne savent pas non plus le sens de la parole « La ilaha illallah ». Mais ils ont trouvé les gens répéter cette parole, ils la disent avec eux. Car, yani, dans une riwaya, quand il sera interrogé au sujet du prophète, il dira, c'est Mohammed qui nous est venu avec les preuves évidentes et avec la guidée. Donc ça veut dire qu'il connaissait ces choses-là. Il connaissait les preuves de la véracité de Mohammed et qu'il est un prophète et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces preuves, je vais citer une preuve sur laquelle personne ne peut avoir de divergence. Personne ne peut rejeter cette preuve. Tellement elle est évidente, et c'est une preuve rationnelle que Cheikh l'Islam Taymiyyah cite. Vous savez que c'est Cheikh l'Islam Taymiyyah a un livre précieux qui s'appelle Dala il Nubuwa, si je ne me trompe pas, Al-Mohim, dans lequel il parle des miracles du prophète alayhi salam et des grands signes de sa prophétie, en deux volumes. Et parmi ces preuves rationnelles, car il y a des preuves religieuses et des preuves rationnelles, parmi ces preuves rationnelles, c'est que le Nabi alayhi salam était considéré, avant de dire qu'il est prophète et qu'il a reçu la révélation, il était considéré par les siens comme l'homme véridique, de confiance, As-Sadiq al-Amin. Et ensuite, après 40 ans, sans qu'il détecte sur lui ne serait-ce qu'un seul petit, tout petit mensonge. Et il fallait attendre 40 ans pour qu'il dise qu'il a reçu la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui dit qu'il est prophète d'Allah et qu'il a reçu la révélation d'Allah, ou bien c'est l'homme le plus véridique qui existe, ou sinon c'est le plus grand mensonge et imposteur qui existe. Car c'est le plus grave des mensonges, de mentir sur le Créateur. Et faire la distinction entre les hommes, les deux hommes, c'est quelque chose que peut faire même l'homme fou. Même un fou, il peut faire la différence entre le plus grand des menteurs et le plus grand des hommes véridiques. Et aussi, de voir que le Nabi alayhi a passé 23 ans à dire qu'il est prophète et qu'il recevait la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui croit en l'existence d'Allah, c'est pas possible qu'il croit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un vrai prophète. Il doit croire obligatoirement que c'est un vrai prophète, du moment qu'il a cru en l'existence d'Allah. Car si tu crois qu'Allah existe, Allah ne peut jamais laisser un homme mentir sur lui pendant des siècles et des siècles, et sa religion ne fait qu'accroître, et que ses suiveurs ne font qu'augmenter. Yani Allah, il ne va pas laisser ça. C'est inimaginable et c'est impossible. Sauf si ce n'est pas une vraie divinité. Sauf si c'est yani, quelqu'un qui est impuissant. Et vous voyez combien de gens ont prétendu qu'ils étaient prophètes. Vous ne trouverez des suiveurs à personne d'entre eux. La plupart d'entre eux, leurs affaires se terminent, yani, se terminent avec leur mort ou là, quelques années après leur mort. Si jamais il y a un autre imposteur qui vient par la suite et qui prend le relais. Lakin, combien de gens ont prétendu être des prophètes et dont on n'entend plus parler aujourd'hui et qui n'ont aucun suiveur sur terre aujourd'hui. Lakin, Nabi alayhi salam, ainsi que tous ses frères parmi les prophètes et messagers, c'est les seuls qui continuent à avoir des suiveurs. Et ça indique que c'est un vrai prophète. Sinon, Allah n'aurait pas laissé ça, comme ça. Quelqu'un qui ment sur lui matin et soir pendant toute sa vie. Et après, il laisse encore sa religion continuer. Et avec des suiveurs qui ne font qu'augmenter. Ça, c'est une preuve rationnelle que c'est un vrai prophète et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh Rabi' Hafidhahullah rahimahullah a dit, le croyant doit être en garde par rapport à cela. Il doit avoir une méditation au sujet du livre d'Allah. Et il doit préparer les réponses pour ces questions. Dès maintenant que le prophète est Muhammad, fils de Abdullah. C'est pour ça dans la biographie, même dans les livres les plus concis, nous apprenons la lignée généalogique du prophète. Même dans les trois fondements. Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdul Manaf, et ainsi de suite jusqu'à Ismaïl, jusqu'à Ibrahim alayhim assalam. Lakin, un minimum, c'est de connaître qu'il est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib. Et que Abdul Muttalib, il est de la tribu de Quraysh, qui sont des descendants de Ibrahim alayhim salam. Tu dois connaître ton prophète alayhim salam et savoir les preuves évidentes avec lesquelles il est venu. Et à leur tête, ce livre, le Coran, et de le méditer, et de l'apprendre, et de les lire d'une manière régulière, tous les jours. ne serait-ce qu'une partie du Coran, un juz, ou même un hizb. Lakin, de ne pas boycotter le Coran, de ne pas délaisser le Coran, et de faire partie de ceux contre, au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya Rabbi, inna qawmi yattakhadhu hadha al-Qur'an mahjoura. Ceux qui ont délaissé le Coran, qui se sont éloignés du Coran, faut garder toujours un lien avec le Coran, avec sa lecture, sa méditation, sa mémorisation, sa compréhension, sa mise en pratique, de se guérir avec, de se soigner avec, de faire da'wa avec, et ainsi de suite, parmi toutes les choses qui sont demandées vis-à-vis du Coran. Chacun selon son niveau, chacun selon son degré, chacun selon ses disponibilités, mais le croyant ne doit pas laisser passer une journée entière, 24 heures, dans laquelle il n'a pas lu, ne serait-ce qu'une page du Coran. Qu'Allah nous le facilite à tous. Le Nabi Aïssa-Salam a dit « Innakum tuftanouna fi quburikum » مثل أو قريب من فتنة الدجال. Il a dit dans le hadith, vous allez certes être interrogé dans votre tombe et éprouvé et testé et tenté d'une manière égale ou proche de la tentation de le Messie Dajjal, le faux Messie. On sait tous, yani le degré de la fitna de le Messie Dajjal. C'est une des plus grandes fitnas qu'Allah a créées. C'est le Messie Dajjal. Cet homme qui donne l'ordre au ciel de faire descendre la pluie descend. Qui va sur une terre aride et qui lui donne l'ordre de faire pousser les végétations et les plantes, ça pousse instantanément. Il passe sa main sur des brebis maigres, elle devient engraissée instantanément. Il leur donne à la terre, elle fait sortir ses trésors et ses bijoux, enfuit dedans, et ainsi de suite. C'est une fitna immense. Et également, les du'as qu'on dit à la fin de chaque... avant le salam, dans chaque salat, on dit « Allahumma inni a'oudhu bika » من عذاب القبر من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Donc on cherche refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. يعني هذا الدعاء a une petite histoire. C'est une femme juive qui a enseigné ça à notre mère Aïcha pour la première fois. Et le Nabi عليه السلام l'a approuvé. Et parmi ceux qui renient l'existence du châtiment de la tombe et de tout ce qui est en lien avec le monde tombal, nous trouvons parmi les sectes égarées Al-Mu'tazila, à leur tête Al-Mu'tazila, et ceux qui les ont suivis. D'une manière générale, vous trouvez Rafida, vous trouvez, comment il s'appelle, Hadoulif Ouman, l'Ibadiya, Hadou tous, c'est des Mu'tazila dans la croyance. Rafida, c'est leur croyance, c'est des Mu'tazila. Ensuite, l'imam Ahmad a dit « Wa inna hadhihi al-umma tuftanu fi quburiha wa tus'alu 'an al-iman ». Donc il a parlé de l'interrogatoire de la tombe. Après, Cheikh Rabi a dit « Comment entrera Munkar et Nakir dans la tombe ?»« Comme Allah le voudra ». Ça, c'est comme ce qui a précédé. Ça fait partie des choses de l'invisible. Comment l'ange entre dans l'utérus de la femme, et il écrit ses quatre paroles. Il écrit sa subsistance, son rizq, son délai de vie. Il écrit est-ce qu'il sera parmi les bienheureux ou parmi les malheureux, et ainsi de suite. Comment l'ange fait cela, entre dans l'utérus et inscrit ses quatre paroles, Allahu a'lam, comment ça se fait? Tout ce qui fait partie du monde de l'invisible, nous ne pouvons l'aborder ni le décrire qu'avec ce qui a été rapporté dans la révélation, dans le Coran et dans la Sunna authentique. Sinon, on ne peut pas le décrire de nos têtes, car ça ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Ça ne ressemble à rien de ce que nous connaissons de ce monde. Donc, on ne peut rien savoir à ce sujet que ce que Allah nous a dit. Et Allah nous a dit tout ce qui nous est profitable et bénéfique et tout ce qu'on est capable de comprendre et d'assimiler. Et de chercher, le fait de chercher plus que ça, c'est ouvrir des portes de l'égarement. C'est pour ça, cher Hadin, ma na'lamu hada. Ya'lamuhu Allah. Nous ne savons pas. C'est Allah qui sait. Et il nous a informé de cela. Et il a dit la caractéristique du croyant, même parmi ses meilleures caractéristiques et ses plus nobles caractéristiques, c'est comme Allah l'a décrit dans le début de Surat al-Baqarah. Il a dit Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Une guidée pour les vertueux. Qui sont les vertueux? Qui sont les pieux? Hudan lil muttaqin. Alladhina yu'minuna bil ghaibi. Il a cité ça en premier. Ceux qui croient en l'inconnaissable, en l'invisible. Donc nous devons croire en tout ce qui a été rapporté dans le Coran, dans la Sunna authentique, rapporté de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Le point suivant, c'est Al-Shafa'a. Donc, on ne va pas commencer Al-Shafa'a, mais je veux vous citer une faïda. On va terminer avec ça, étant donné que c'est une faïda qui est liée à la fois l'Iman bil-Ghaib. Vous savez que dans les textes authentiques, le Coran dans son intégralité et Sunna authentique, nous trouvons les descriptions de certains phénomènes. تَحَارُ فِيهَا الْعُقُولِ وَلَا تُحِيلُهَا الْعُقُولِ. Et Cheikh l'Islam a parlé longuement de ce point. Que dans les textes, on peut trouver des choses, يعني, comment dire, تَحَار, يعني, d'ailleurs, le mot m'échappe, يعني, des phénomènes مُحَيِّر. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait comment on dit Mouhayir?
Une chose extraordinaire, dit le frère.
Extraordinaire, c'est bien. C'est bien, mais il peut y avoir plus précis. Des choses à caractère impressionnant, dans ce sens-là. Là qu'il n'en trouve jamais des choses dans les textes que la raison saine rejette. Tuhilu al-uqul. Ça, on ne trouve pas. Là qu'il en trouve des choses impressionnantes, extraordinaires. Hada, c'est un point. Parmi les choses impossibles à trouver dans les textes et que la raison saine rejette, c'est, par exemple, parmi les exemples qu'il donne, ijtima'un naqidain, qu'une seule chose soit décrite en même temps, simultanément, par deux opposés. Ijtima'un naqidain. Par exemple, tu dis, cette montre existe et elle n'existe pas en même temps. Ça, ce sont deux choses contradictoires. C'est pas possible qu'elles se réunissent en un seul lieu. Et ça, tu ne le trouveras jamais dans les textes. C'est les choses impossibles que la raison saine rejette. Également, parmi les choses impossibles, que dans les textes, la partie d'une chose soit décrite comme étant plus grande que son intégralité. Al-juz'u akbaru min al-kull. Ça, c'est impossible non plus. Également, parmi les exemples, qu'une chose donne existence à elle-même avant même qu'elle ne soit créée. Ça, c'est pas possible. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla l'a cité dans les arguments de sa seigneurie. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Est-ce qu'ils étaient créés à partir du néant? Ça, c'est impossible. Et ceux qui prétendent suivre la science expérimentale, comme ils aiment bien dire, nous, on croit seulement en la science expérimentale. Mais quand est-ce que vous avez expérimenté l'existence d'une chose à partir du néant? Ça, c'est impossible. Et ça n'arrivera jamais, jusqu'à la fin des temps. Wallahi, personne ne peut donner existence à cette petite pièce, ou là, un bout de bois, ou là, une pierre. On peut rien créer à partir du néant. L'homme ne sait pas le faire, et il ne saura jamais le faire, à partir de rien. Encore moins donner existence à un être vivant, ne serait-ce que la forme la plus simple de cellule. Ça, c'est encore beaucoup plus complexe. On m'a déjà créé un bout de bois qui fait 2 mm par 2 mm, ou là 1 mm par 1 mm, c'est impossible pour l'homme. Et il ne pourra jamais le faire. Il n'y a que Allah qui est capable de ça. Donner existence à une chose à partir du néant. C'est pour ça qu'ils étaient contents quand ils ont vu les asticots apparaître sur la viande, enfermés dans un bocal au lait. Ils ont dit, voilà, ça apparaît à partir du néant. ils ont compris. Et tout ce qui se dit à ce sujet, c'est que des mensonges. Malheureusement, aujourd'hui, il y a de l'outil des médias, de la manipulation par les réseaux sociaux ou autres qui font propager des choses au point où ça peut devenir comme des vérités pour les gens. Regardez, en France, la plupart des gens croient qu'on descend du singe et qu'il y a vraiment des choses qui le démontrent, scientifiques. Ça, c'est pire que les fables de La Fontaine. Wallahi, les scientifiques, c'est que mensonge sur mensonge sur mensonge. À chaque fois qu'ils trouvent un être humain chouïa bizarre, ils disent « bah voilà, c'est lui ». Et après, ils découvrent c'est un être humain comme les autres. C'est juste son père, peut-être il l'a cogné, ou la martechno, comment il a fait. Wallah al-musta'an. Et il y a de la thé. C'est pour ça, comme je dis souvent, quand j'ai compris ce point, j'ai compris l'essentiel de ce qu'il faut. J'estime que j'ai compris l'essentiel de ce qu'il faut comprendre au sujet de l'athéisme et des athées. Les athées, c'est des gens qui sont déterminés à ne jamais croire en Allah. C'est pas des gens qui manquent de preuves ou là. L'athée, c'est un être qui ne veut pas croire en Allah. Il est prêt à tout, sauf croire en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, vous voyez, ils acceptent qu'il y a eu des extraterrestres qui sont venus sur Terre, ils ont donné les premières formes de vie. Mais un demi-chmouchkil avec n'importe quelle scène, n'importe quel scénario. Sauf celui où c'est Allah qui a créé. Voilà la seule chose qu'ils ne peuvent pas accepter. Et après, ils vont nous accuser de ne pas être des gens scientifiques, de croire en des choses sur lesquelles il n'y a pas de preuves. Mais est-ce qu'il y a plus grande preuve sur l'existence d'Allah que notre existence? Yani, toute chose indique l'existence d'Allah. Est-ce qu'un homme qui a sa raison demande des preuves sur l'existence d'Allah? Wallah, il n'y a qu'un fou qui demande des preuves sur l'existence d'Allah. Toute chose indique son existence. Non, parce qu'on ne le voit pas. On ne l'a pas expérimenté. Mais tu crois en énormément de choses que tu n'as pas testé par tes mains, que tu n'as pas touché, que tu n'as pas senti. Lakin, yani, t'as vu et t'as expérimenté leurs effets et leurs conséquences, comme le courant électrique. Qui d'entre nous a déjà vu le courant électrique? Lakin, met ta main sur un fil dans lequel il y a du courant électrique et tu vas voir les effets. Mais le courant électrique en soi-même, personne ne l'a jamais vu. Et les exemples sont tellement nombreux dans la science. La gravité, tout ça, les scientifiques l'acceptent, malgré qu'ils ne l'ont pas vu. Mais, on sait qu'il y a une gravité. Tu mets quelque chose en haut, elle descend en bas. Il y a un centre de gravité. Personne ne peut le renier. Alors, comment quelqu'un peut renier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Désolé, je suis parti sur un de mes sujets favoris. Wallah al-musta'an. En tout cas, il faut qu'on sache que dans les textes, il peut y avoir des phénomènes et des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement, lakin qui n'arrive jamais à quelque chose d'irrationnel, qui n'arrive jamais à quelque chose d'impossible. Ça, ça ne peut jamais exister dans les textes, ce qui est impossible. Lakin, ce qui est impossible pour les raisons saines, pas pour les raisons corrompues. Il y en a aujourd'hui, malheureusement, on forme les scientifiques comme on veut. Illa man rahimallah, sauf une faible minorité. Regardez, tel les médecins, si vous prenez un vrai médecin, un peu âgé, il va vous exprimer qu'on forme des étudiants en médecine de la manière que les laboratoires souhaitent. Il faut que tu leur donnes les médicaments, il faut hadi, alors que les remèdes ne se trouvent pas dans les médicaments. On m'a déjà dit que dans les pharmacies, il n'y a pas un seul médicament. Il n'y a que des calmants, des choses comme ça. Ils ne veulent pas que les gens se soignent. Ils veulent qu'ils restent malades, juste les apaiser un petit peu, comme ça ils continuent à leur vendre leurs médicaments, leurs produits. Et si tu veux les médicaments, c'est en général dans la sunna du prophète, des médicaments naturels et des médicaments également avec le Coran et avec la sunna, et aussi les remèdes qui étaient utilisés par les gens, d'une manière générale, muslimines comme kuffar, avant l'apparition de ces lobbies de laboratoires qui prennent les gens comme une source d'argent pour s'enrichir et augmenter leur richesse. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.